Tout de suite, État et civil
sur LFM Radio.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Nicolas Boraski, j'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours bien sur LFM le 95.5. Il est 11h et comme tous les mercredis, c'est l'heure d'État et civil, l'émission qui donne la parole à l'État, aux collectivités mais aussi aux associations pour parler et dialoguer à propos de thèmes de société qui nous concernent tous. Aujourd'hui, le thème de l'émission est un peu particulier, assez rare même. On n'est plus réellement sur une thématique précise, mais plutôt sur un portrait d'une personne, laquelle, tout simplement, la présidente de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République à l'Assemblée nationale, mais aussi la députée de la 5e circonscription des Yvelines, donc regroupant les cantons de Maisons-Laffitte, Sartrouville et le Vésinet, Yaël Braun-Pivet, promesse lors de son élection la mise en place de réunions publiques afin de faire un point, un débrief depuis son arrivée auprès de ses concitoyens, l'occasion pour moi de me rendre à l'une d'entre elles et par la suite de la rencontrer, de rencontrer la députée directement à sa permanence au Vésinet pour parler de ses dernières mais également de sa carrière. Alors du coup je vais vous laisser profiter et laisser écouter notre échange avec madame la députée.
LFM 95.5.
Bonjour Yaël Braun-Pivet, merci de nous accueillir à votre permanence au Vésinet. Vous êtes présidente de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République à l'Assemblée nationale et vous êtes aussi députée de la 5e circonscription des Yvelines. Donc l'émission aujourd'hui d'État et civil est un peu particulière, on l'a fait un peu sous forme de portrait envers votre personne. Tout d'abord, première question, quel est votre parcours avant d'arriver ici en tant que députée ?
Alors, j'ai un parcours un petit peu particulier. Je suis sortie des sentiers battus, donc j'ai une enfance tout à fait normale, paisible et aimante. Puis j'ai fait des études de droit, pas très loin d'ici, à la faculté de Nanterre. Et à la fin de mes études de droit, je suis rentrée à l'école du barreau à Paris pour devenir avocate. J'ai exercé comme avocate surtout en droit pénal auprès d'un ténor du barreau qui s'appelle Hervé Témime. Et puis, au bout de quelques années d'exercice, un peu moins de 10 ans, nous avons décidé avec mon mari de partir à l'étranger. Et nous avons vécu 9 ans, principalement en Asie. Et ce fut des années très enrichissantes. Et quand nous sommes revenus en France, j'ai réfléchi et j'ai décidé de ne pas reprendre la robe, mais plutôt de m'investir dans l'associatif. Et je suis rentrée en tant que bénévole à plein temps au Resto du Cœur, pour lesquels d'abord, je me suis occupée de l'accès aux droits pour tous, pour faire en sorte que ceux qui sont les plus démunis, les plus défavorisés, puissent avoir accès aux conseils et à un avocat pour que ça ne soit pas dégradé. Et donc les avocats venaient au centre des restos pour rencontrer les personnes accueillies. Et puis j'ai voulu être encore plus près de ces personnes-là et donc j'ai décidé de gérer des centres des restos, des centres d'accueil. Et donc d'abord j'ai géré pendant une année le centre des Restos du Cœur à Chanteloup-les-Vignes. Puis j'ai créé et géré celui de Sartrouville, toujours à titre bénévole. Et puis j'ai eu envie de m'engager encore plus pour les citoyens. Et je suis partie dans l'aventure d'Emmanuel Macron en 2016. Et j'ai eu la chance d'être investie pour les législatives.
Donc votre arrivée en politique, c'est pour avoir encore plus de proximité justement avec les concitoyens ?
Oui, tout à fait. Moi, j'ai vraiment découvert avec l'action associative au Resto du Cœur quel était le bénéfice d'une action menée à plusieurs dans un intérêt, dans un but d'intérêt général. Et cette utilité, cet aspect très concret d'une action que vous menez, c'est vraiment épanouissant. Et vous avez le sentiment que vous êtes en train d'apporter votre petite pierre à l'édifice d'une société, d'une collectivité, et que vous n'êtes pas là que dans un but égoïste, mais au contraire, que votre action peut avoir un retentissement. Et c'est vrai que l'action politique, elle a un retentissement encore plus grand que cette action associative. Elle est plus diverse si elle s'adresse à plus de gens. Effectivement, moi, ça m'épanouit parce que j'ai ce sentiment d'utilité au quotidien et c'est ça qui me booste le matin en me levant.
Alors, comme vous l'avez dit, vous êtes engagé bénévolement du coup auprès des Restos du Cœur, ce qui dénote que vous avez déjà l'envie d'être au plus proche de la population. Maintenant que vous occupez la fonction de député, est-ce que, bien sûr, à l'instar là, on voit derrière l'abstention, les jeunes qui ont moins envie de voter. Est-ce que vous avez le sentiment que votre nouveau poste, votre nouvelle fonction, peut-être vous écarte un peu de la population ?
Alors moi, je ne l'ai pas, mais je crois que la population peut l'avoir, ce sentiment-là. Moi, je suis restée très, très proche des citoyens, déjà parce que ma vie de citoyenne n'a pas changé. Je continue à vivre au même endroit, mes enfants vont à l'école, je m'occupe d'eux, je vais faire mes courses. Enfin, je suis une citoyenne comme tout le monde et c'est bien normal. Mais justement, nos concitoyens n'ont pas ce sentiment-là. Ils ont le sentiment que le jour où vous êtes élu, vous devenez quelqu'un d'autre et vous devenez un homme ou une femme politique professionnelle et que vous êtes coupé des réalités. Ça n'est pas vrai, ma vie a beaucoup changé dans mes activités, dans mon action, mais elle est aussi restée exactement la même. Et même parfois, quand je peux rentrer à la maison après une journée très fatigante ou alors où j'ai rencontré plein de gens très intéressants et très haut placés, mes enfants, ils me ramènent tout de suite sur terre en me disant « Mais maman, le frigo est vide » ou « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Donc le concret et la réalité, on l'a au quotidien. Après, dans mon action politique, j'essaie d'être au maximum au contact des gens parce que c'est pour les gens qu'on agit en politique, ce n'est pas, encore une fois, ni pour soi, ni pour les grandes idées ou les grandes théories. On agit pour les gens et au quotidien, dans ma permanence, sur le terrain, je les rencontre, j'échange. Et c'était aussi la raison de ces réunions publiques, de pouvoir être vraiment dans ce dialogue direct avec les citoyens. C'est un impératif de la vie politique. Si vous n'avez pas ce dialogue direct avec les citoyens au quotidien, je suis convaincue que vous faites mal de la politique.
Et justement, c'est aussi pour ça que je viens faire cette interview avec vous par rapport aux réunions publiques que vous avez mis en place il y a de ça quelques semaines, où je me suis rendu à celle de Montesson, donc la dernière de la semaine. C'était une promesse, c'est ça, hein, lors de votre élection?
Tout à fait. Moi, j'avais pris plusieurs engagements, mais il y avait celui-ci qui me tenait particulièrement à cœur. C'était un engagement de venir tous les ans devant chacun des citoyens de ma circonscription, donc dans chacune des villes, faire des réunions publiques d'échange, de dialogue, pour rendre compte de mon action, pour pouvoir entendre, pour pouvoir discuter avec les citoyens, pour avoir leur ressenti. Et donc, au début de mon mandat, je l'avais fait, 2017-2018, et puis le Covid est arrivé, les réunions ont été interdites à cause de l'épidémie, donc je les ai continuées en visio, mais c'est pas pareil. Et donc, dès que j'ai pu, et c'est ce que j'ai fait donc à cette rentrée politique, j'ai repris le chemin des réunions publiques pour retrouver en vrai les citoyens sans aucun filtre.
Alors, du coup, je me suis rendu à celle de Montesson la dernière de la semaine, le vendredi. Je me suis permis de faire un petit micro-trottoir pour l'avis des personnes qui étaient présentes. On va écouter ça tout de suite et je vous fais réagir juste après.
LFM 95.5.
Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui ?
Je trouve que c'est très important d'avoir l'opportunité, après 18 mois de Covid, de pouvoir discuter avec ma députée. Et précédemment, depuis 5 ans qu'elle est élue, je faisais toutes ces réunions publiques dans ma ville.
Je suis venu pour soutenir Yaël Braun-Pivet, avec qui j'ai fait campagne il y a 5 ans, et dont je suis toujours admiratif du travail et de l'action.
Alors, c'est une première, c'est la première fois que je viens assister à une réunion publique politique, on va dire. Je ne connaissais pas la députée, pas plus que ça, enfin je savais qui était la députée de ma circonscription, mais voilà, je ne la connaissais pas, donc je voulais voir un peu son discours et qu'est-ce qu'elle allait dire. Je venais vraiment à titre d'information, je ne savais pas trop quelle allait être la teneur ou l'organisation de ce type de débat, mais voilà, je suis venu plus au départ par curiosité.
Pour m'intéresser au débat politique et à sa présence locale, qui est l'interface qu'on a entre un citoyen, on va dire, de terrain, qui a un certain spectre d'expression et qui peut venir dans des soirées comme ça.
Sur cet événement-là de ce soir, c'est important selon vous de mettre cela en place pour être au plus proche de ses concitoyens ?
Oui, offrir des opportunités à Montesson, il y a beaucoup plus de monde qui a assisté, donc ça n'attire pas beaucoup de public. Mais offrir cette opportunité, pour moi, c'est important.
C'est forcément très bien, puisque c'est la députée. D'abord, je trouve ça courageux, puisque la députée ne sait pas qui va venir et peut trouver en face voilà, des gens de toute opinion et pas forcément de la sienne. Donc, pas du tout partisan au départ. Donc, c'est une certaine forme de courage politique. Moi, je trouve ça très, très bien. Non, moi, je trouve que c'est une bonne chose, puis ça permet de mieux comprendre comment fonctionne le système parlementaire, bon, surtout avec une députée qui s'occupe de la commission des lois, forcément du coup ça nous explique bien ce que les cours d'éducation civique, pour moi ça remonte à un certain temps. Elle prend sur son temps, je veux dire tous les soirs, tous les soirs de la semaine, faire des réunions publiques de 20h30 à 22h30. J'admire les gens qui dépensent autant de temps personnel pour les citoyens, quoi, pour la nation, pour la République. Je trouve ça super.
Aujourd'hui, la relation est malade, le confinement a fait du mal avec une trace psychologique très claire et les différences qu'on a sur la position sur le masque, sur le pass sanitaire, sur un état où on peut craindre un déferlement totalitaire et la pression vaccinale font que les gens n'osent plus se parler entre eux parce qu'il y a le risque de ne pas s'entendre. Mais c'est beau de ne pas s'entendre, ça veut dire qu'on s'écoute un petit peu quand même et qu'on peut parler. Donc des soirées comme ça sont bonnes, oui, assurément.
LFM 95.5. Et Elbrune Pivet, du coup, on ressort de ce micro-trottoir sur ce que vous venez d'entendre. On entend, voilà, beaucoup de courage de la part de la députée de faire face à tout le monde. Cette proximité qu'elle a avec nous. Votre avis là-dessus, c'est ce que vous recherchez, j'imagine?
Ben, je suis en fait très, très émue parce que c'est fort quand vous voyez que, justement, l'objectif que vous poursuivez, l'intention que vous mettez dans une action, eh bien, est ressentie par les citoyens et que vous avez touché juste, vous êtes tombé juste. Et vous avez pu voir à cette réunion qu'on n'a pas toujours été d'accord sur tout. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu des débats animés. Et pourtant, on est tous restés ensemble, on s'est tous respectés, on s'est tous écoutés. Et je vois que ça a été apprécié. Donc, ça encourage à en refaire.
Alors, durant cette réunion publique, je ne sais pas, j'étais pas au prochain, vous allez répondre à cette question. C'était une certaine tranche d'âge qui était présente. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes, voire pas du tout, sur, on va dire, les 25-30 ans. Est-ce que vous espériez réunir des jeunes à ces réunions ou pas?
Non, parce que pour la jeunesse, je suis assez lucide. Et je crois que les jeunes, il faut aller les voir, il faut que nous allions les voir. Il ne faut pas attendre qu'ils viennent à nous parce qu'ils ne viendront pas, à mon sens. J'avais organisé justement une réunion spécifique avec les jeunes. J'en avais organisé déjà une pour le grand débat, où j'avais souhaité faire un grand débat avec les jeunes. Et j'étais allée à la cité à Sartrouville, sur la cité des Indes, pour faire ce grand débat avec la jeunesse. Et là, donc, j'avais organisé, il y a de cela peut-être un mois et demi, une soirée à la MJC, toujours à Sartrouville, sur le plateau, avec les jeunes, pour voir, échanger avec eux sur l'abstention, sur l'engagement politique. Et ce que j'en avais tiré, et c'est un constat très triste pour nous, surtout, c'est qu'en fait, nous ne sommes absolument pas dans leur viseur, nous ne sommes absolument pas dans leur paysage, dans leurs préoccupations. Et vraiment, je vais être un petit peu dure, mais pour eux, nous n'existons pas en tant que politique. Et donc, il faut vraiment trouver les moyens de leur montrer que on peut faire des choses pour eux, qu'il faut qu'on arrive à dialoguer, qu'eux ont des messages à nous faire passer et que leurs messages, il ne faut pas juste les crier dans le vide, mais il faut qu'ils nous les disent à nous, parce que nous avons le pouvoir d'agir pour eux. Donc il faut réinstaurer ce dialogue-là avec la jeunesse. Et effectivement, il faut plutôt, là, au stade où nous en sommes, vraiment que nous, politiques, allions vers eux, allions au plus près de là où ils vivent, allions au plus près de leurs préoccupations dans nos discours politiques, pour essayer de retisser ce lien avec la jeunesse qui est vraiment... Alors, c'est pas une question de distendu. Ils sont pas dans une situation où... Ils nous détestaient, il n'y avait pas d'acrimonie à notre égard. En fait, on n'existe juste pas. En fait, c'est plus de l'indifférence. Et cette indifférence-là, à mon sens, elle est mortifère.
On conclut du coup le sujet autour des réunions publiques avec madame Catherine Tasca. Vous êtes les deux seules femmes présidentes de cette commission des lois. Je suis obligé de vous poser la question en tant que journaliste LFM. Vous avez cité, donc je vous cite, hein, « J'ai vraiment découvert le sexisme politique provenant de certains députés ». Comment y avez-vous fait face, tout simplement?
Alors déjà, effectivement, vous faites bien de rappeler Catherine Tasca, qui a été élue des Yvelines. Donc la commission des lois, nous en avons privatisé la présidence pour les femmes yvelinoises, à bon entendeur, pour la prochaine législature. Oui, le sexisme en politique... déjà, le sexisme, il existe partout. Hein, il faut pas se leurrer, pas seulement en politique. Donc il n'y a finalement pas de raison qu'en politique, la politique soit épargnée. Maintenant, ça peut se manifester, alors soit par des remarques sexistes, ça c'est vraiment ce qui finalement est le plus banal. Après, certains ont du mal encore, et là ça devient plus profond, à imaginer des femmes au pouvoir. exerçant des responsabilités et les exerçant, et là vous avez dans toutes les clichés d'une femme qui exerce des responsabilités, elle devient maîtresse d'école, mère de famille, etc. Donc ça vous renvoie à des clichés d'autorité, de femmes et d'autorité assez assez surannée et assez misogyne. Après, on voit qu'en politique, surtout, on a un plafond de verre qu'on n'a pas réussi à briser. Donc, on monte au fur et à mesure. On met plus de femmes, et notre législature est celle qui aura connu le plus de femmes à l'Assemblée nationale, avec nous, dans notre groupe politique, la moitié de femmes et la moitié d'hommes. On a fait la parité au niveau des présidences de commissions, au niveau de ce qu'on appelle la questure, au niveau des vice-présidences de l'Assemblée. Donc, vous voyez, on a franchi une étape. Maintenant, il y a la dernière étape, l'ultime étape au niveau des institutions. Ce sont les grandes institutions pour lesquelles le président de la République a un pouvoir de nomination. On peut penser au Conseil d'État, à la Cour des comptes, au Conseil constitutionnel, qui sont des institutions très importantes dans notre République et qui n'ont jamais, jamais été présidées par des femmes. Et on peut penser après à des institutions pour les nominations, il y a aussi le poste de Premier ministre qui n'a été occupé que brièvement par une femme. Et puis, il y a les institutions pour lesquelles il y a une élection. Et là, c'est la présidence de la République, bien sûr, la présidence du Sénat, la présidence de l'Assemblée nationale. Ces institutions n'ont encore jamais été présidées par des femmes. Donc, on a encore une étape à franchir. Mais le fait que, justement, des femmes prennent au fur et à mesure des responsabilités politiques vont faire que cette étape sera franchie dans les années qui viennent, à n'en pas douter.
J'en conclue que là, pour le moment, être une femme en politique, ça reste même encore un combat qui reste d'actualité, du coup.
Ça reste difficile, mais je crois, comme aussi pour toutes les femmes qui exercent des responsabilités, qui ont des métiers à horaire décalé, qui doivent partir tôt, rentrer tard, etc., c'est difficile pour toutes les femmes, mais aussi pour les hommes, de mener des vies de famille concurremment à une vie professionnelle engageante. Voilà, c'est difficile de réussir à respecter tous ces équilibres-là. C'est important de les respecter parce que c'est important d'être bien aligné, je crois, quand vous travaillez. Quel que soit le travail que vous faites, c'est important d'être bien équilibré dans sa vie pour pouvoir le faire bien et puis pour aussi comprendre les préoccupations des uns et des autres. Moi, j'ai été, pendant la crise Covid, je fais une digression, mais je comprenais tout à fait, très intimement, les difficultés des élèves, les difficultés des adolescents, les difficultés d'enseignants pour réussir à faire cours. Moi, j'avais classe à la maison avec des niveaux très différents, avec des enfants très différents, etc. Et j'ai bien vu à quelle complexité on avait affaire. Et donc ça, c'est parce que vous êtes dans la vie réelle que vous avez justement une conscience aiguë de la société. Et encore une fois, qu'en tant que politique, après, vous allez pouvoir agir au mieux.
LFM 95.5. C'est la fin de notre première partie. En deuxième, nous allons continuer à parler de la carrière de Yaël Braun-Pivet, et cette fois sur ses missions, sur le rôle de la commission des lois et les différents projets de loi importants. On fait une petite pause musicale, on écoute Sorry de Lefa et Taïk, et on revient tout de suite après pour la seconde partie d'État et civil. A tout de suite.
Écoute le meilleur son d'hier et d'aujourd'hui sur le 95.5.
Encore une fois, je t'ai mise dans le mal. J'ai parlé d'avenir sans dire nous. Mais faut pas que tu démarres sans halleur. Sorry, sorry, sorry. C'est une course de fond, c'est pas un 100 mètres. La ligne d'arrivée, c'est notre rendez-vous. Ouais, 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 ouais. Baby, si tu m'aimes, regarde pas mes défauts. Tu sais, je suis qu'un homme. Je fais des conneries des fois. Je peux changer, mais doucement. Patienter, je peux prendre sur moi. Ouais, 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 ouais. Oh. Sorry, sorry, sorry. 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 Je peux changer, baby, doucement.
Give me thanks.
Oh, my baby, do some.
Dis-moi ouais, tu préfères quoi? Continuer de me mentir ou te dire faut qu'on laisse tomber, yeah. Et bah ouais, tu préfères quoi? En moi y'a comme un vide et toi tu n'as jamais su le combler. Bah vas-y, dis-moi, on doit faire quoi? Nanana, je t'écoute, yeah. Essaye un peu d'effacer tous mes doutes, yeah. I'm sorry. Oh baby, I'm sorry.
Ni toi, ni moi,
aucun de nous peut continuer comme ça. Mais si tu m'aimes, ne regarde plus mes défauts.
Bébé, si tu m'aimes, regarde pas mes défauts. Tu sais, je suis qu'un homme, je fais des conneries des fois. Je peux changer, mais doucement. Faut patienter, je peux prendre sur moi.
LFM 95.5.
De retour sur le 95.5 avec moi-même Nicolas Boraski. Si vous venez de nous rejoindre, on démarre la seconde partie d'Éteil Civil, l'émission qui donne la parole à l'État, les collectivités, les associations, pour parler et dialoguer à propos de thèmes de société qui nous concernent tous. Ce matin est une émission un peu particulière, ce n'est pas sur une thématique précise, comme à son habitude, mais plutôt sur le portrait de Yaël Braun-Pivet, présidente de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République à l'Assemblée nationale, mais aussi députée de la 5e circonscription des Yvelines, regroupant les cantons de Maisons-Laffitte, Sartrouville et le Vésinet. En première partie, on a échangé autour de sa carrière et son arrivée dans le monde politique. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder le rôle de la commission des lois où elle préside et également les différents projets de loi encore en discussion.
LFM 95.5.
Je reviens du coup sur la commission des lois, dont vous en êtes la présidente. Pour les auditeurs et auditrices de l'FM Radio qui se demandent, la commission des lois, qu'est-ce que c'est? Quel est le champ de compétences, le champ d'action de la commission des lois?
Alors pour préciser, en fait, déjà à l'Assemblée nationale et au Sénat, donc qui forme le Parlement, nous sommes organisés en commissions permanentes. Donc ces commissions permanentes préparent la loi, évaluent les lois et lancent ce qu'on appelle des missions d'information pour travailler au fond certains sujets. Et comme on ne peut pas tout faire et que chacun ne peut pas être spécialiste en tout, on a décidé d'attribuer des compétences à chacune de ces commissions spécialisées dans lesquelles chaque député est obligé d'appartenir à une seule commission. Et donc il y a les commissions à l'Assemblée nationale comportent 72 députés. Et donc il y a la commission par exemple des affaires culturelles et de l'éducation, il y a la commission de la défense, il y a la commission des affaires économiques, la célèbre commission des finances, et il y a la commission des lois. La commission des lois, elle, vous en avez rappelé le nom et il est très long, elle s'occupe de toutes les questions dites régaliennes, qui touchent le cœur de l'État. Donc, pour être très simple, c'est celle qui concerne le ministère de l'Intérieur, donc la sécurité, la police, l'immigration, les élections, les préfets, l'organisation de l'État sur un territoire, les pompiers, la sécurité civile, le ministère de la Justice, donc tout ce qui est l'organisation judiciaire, les tribunaux, l'administration pénitentiaire et les prisons, le ministère de la fonction publique, donc tout le statut des fonctionnaires qui travaillent sur notre territoire dans l'intérêt général, les Outre-mer, donc le ministère des Outre-mer, comment on construit la relation entre chacun de ces territoires et l'Hexagone. Et puis, elle s'intéresse également aux institutions d'une façon générale, comment on organise l'État, alors les collectivités, les relations entre une mairie, un département, une région et l'État, comment tout cela se combine, quelles sont les compétences des uns et des autres, et les institutions, l'organisation des pouvoirs publics, la constitution, quelle est la place de chacun, quel est son rôle. Et donc ça, c'est aussi du champ de la commission des lois. Pour tout vous dire, la commission des lois est une commission très législative qui traite à peu près 50% des lois qui passe par l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc c'est une commission qui est vraiment centrale, au cœur de l'État, qui travaille beaucoup et qui a en plus travaillé encore plus avec la crise Covid, parce que c'est la commission aussi des libertés publiques. Et donc, pendant la crise Covid, le gouvernement a dû agir sur nos libertés en confinant, en imposant des couvre-feux. Et pour traiter ces questions, on a fait le choix de les confier à la commission des lois parce qu'il s'agissait de liberté avant tout. Et donc, depuis un an et demi, la commission des lois a traité, en plus de son activité générale que j'ai décrite, 25% en plus de travail pour traiter exclusivement dédié à la crise sanitaire.
Justement, par rapport aux lois, quelles sont les lois, les grandes lois hein, majeures que vous continuez d'étudier à la commission? Comme vous l'avez dit, il y a le projet de la loi relatif à la gestion de la crise sanitaire. Il y avait aussi l'euthanasie, à un moment donné. Sur la globalité, quelles sont-elles?
Alors, crise sanitaire, effectivement, nous sommes en plein débat en ce moment pour prolonger les pouvoirs de vigilance que l'on a donnés au gouvernement. Donc, et dans ces pouvoirs, il y a effectivement la faculté de recourir au pass sanitaire. Après, nous sommes en train de travailler sur deux lois justice pour rapprocher la justice de nos concitoyens et notamment pour permettre, par exemple, au procès d'être filmé. Également, une loi qui va créer ce qu'on appelle un code pénitentiaire, ce qui est très important pour nos détenus en ce moment. Nous travaillons également sur une grande loi qui va traiter des collectivités territoriales, justement, revoir un certain nombre de compétences des uns et des autres. Et puis, vous avez parlé de la fin de vie. Alors, la fin de vie, ça n'est pas un texte que la commission des lois traite, c'est un texte qui est attribué aux affaires sociales, mais dans lequel je me suis beaucoup engagée parce qu'à titre personnel et à titre d'élu, je considère que nous devons apporter à tous nos concitoyens cette ultime liberté de choisir les conditions dans lesquelles ils souhaitent finir sa vie. Et nous avons, et avec d'autres, hein, beaucoup milité pour que cette loi puisse aboutir durant cette mandature. Nous n'avons à ce jour pas encore réussi, mais je ne me résignerai pas. Je considère que c'est vraiment aujourd'hui la loi majeure que nous devons faire adopter dans notre Assemblée.
Justement, par rapport à cette loi, vous comprenez qu'il y a autant de divergences liées à ce sujet ?
Moi, je ne les ai pas vues s'exprimer, ces divergences. Moi, j'ai vu à propos de ce sujet, au contraire, un grand respect déjà des uns et des autres, respect des opinions de chacun, respect des vécus de chacun, des réactions, des sentiments, des croyances aussi, parce que pour certains, ça relève d'une croyance religieuse. Donc moi, j'ai vu dans ce débat beaucoup de respect et pas d'affrontement. Et puis, c'est vraiment une loi qui apporte, qui ne retire rien à personne, qui n'oblige personne, mais qui crée un cadre, qui crée une possibilité, et à chacun de choisir. Après, c'est vraiment une loi de choix. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas, sur notre territoire, choisir librement sa fin de vie. Et cette loi permettra le choix, tout simplement. Donc elle n'imposerait rien à personne, mais en revanche, elle ouvre le champ des possibles. Et je crois que c'est, encore une fois, notre rôle de politique, d'ouvrir ce champ des possibles et de ne pas imposer à quiconque des choix que nous ferions à la place des gens. Nous n'avons pas à choisir pour les gens, nous n'avons pas à leur imposer nos opinions, nos croyances, nos convictions, surtout en ce domaine-là, surtout en ce domaine-là.
Alors justement, on parlait des projets de loi qui étaient encore en discussion. Concernant des projets de loi qui sont déjà entrés en vigueur, dont vous êtes le plus satisfaite, quels sont-elles ?
Il y en a, beaucoup. C'est difficile de faire le palmarès. Moi, il y a les lois sur la justice. On ouvre en ce moment les états généraux de la justice. On a beaucoup fait. Il y a encore beaucoup à faire, mais j'ai le sentiment que nous avons d'ores et déjà pu mettre en route un certain nombre de choses, notamment à nouveau sur la condition pénitentiaire, sur les moyens que nous avons pu mettre, sur une amélioration des conditions de détention des détenus. Donc là, la question pénitentiaire, le chantier n'est pas fini. Moi, je crois encore qu'il y a des choses à faire, notamment sur le chantier des prisons ouvertes, modifier les conditions de détention, surtout pour les courtes peines et nos mineurs. Donc des grands chantiers encore à faire. Moi, je suis assez fière d'avoir réussi à aboutir sur les mesures de sûreté pour les détenus terroristes condamnés et qui pourront être suivis après la sortie de prison. C'est quelque chose que je portais, qui avait été censuré par le Conseil constitutionnel et parce que nous avions dans notre loi certaines imperfections et nous avons relégiféré tenant compte des remarques du Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel a validé la deuxième loi que nous avons portée. Donc je suis fière de cela en ce que ça a aussi, c'est de bonnes méthodes. Nous voulons porter quelque chose, nous y travaillons, c'est imparfait, ben nous remettons l'ouvrage sur le métier et nous aboutissons dans l'intérêt de la protection de nos concitoyens. Après, d'une façon très générale, moi je suis fière d'avoir pu apporter une nouvelle façon de faire à la commission des lois, une nouvelle façon de faire dans notre institution, plus ouverte sur nos concitoyens. J'ai emmené la commission des lois hors les murs, nous nous sommes réunis dans des palais de justice, dans une prison, nous avons été à la Cour européenne des droits de l'homme, j'ai essayé de faire en sorte que la commission des lois s'oxygène, aille sur le terrain, rencontre les acteurs en tant qu'institution et en tant que commission. Et puis, j'ai aussi vraiment insufflé du travail transpartisan à la commission. C'est aussi quelque chose qui compte pour moi parce que je crois profondément dans ce dépassement des clivages, dans ce construire des ponts entre les uns et les autres. Et à travers de très, très nombreux travaux en commun menés avec les oppositions, nous avons pu faire des propositions qui sont maintenant inscrites dans la loi. Et ça, c'est une vraie fierté parce que ça montre quand on veut travailler en profondeur, sur le temps long, avec des gens qui ne sont pas d'opinion similaire aux vôtres, politiques en tout cas, on est capable de se retrouver sur un certain nombre de sujets dans l'intérêt de nos concitoyens. Et je crois que c'est ça une belle façon de faire de la politique. Et j'ai réussi, à la place qui est la mienne, au niveau qui est le mien, à insuffler ça au sein de ma commission. Et ça, j'en suis fière. Et l'autre jour, on faisait un petit bilan de l'année écoulée en commission. Et les parlementaires présents de tous bords politiques ont mis ça en avant. Et vous voyez, comme les citoyens, ça fait toujours plaisir de voir que le but que vous cherchez à atteindre est atteint, en tout moins en partie. Et ça, c'est une vraie satisfaction.
On arrive aux trois dernières questions, Yael Brune-Pivet. Il y a une consultation citoyenne en ce moment lancée par l'Assemblée nationale à l'initiative du président de l'Assemblée, Richard Ferrand, concernant un changement pour permettre aux jeunes de 16 ans de voter, qui permettra également de faire voter plus, de le rendre obligatoire. Pouvez-vous nous donner votre sentiment si un changement est désormais inévitable pour tenter de réduire le taux d'abstention ?
On voit effectivement que cette consultation rencontre un grand succès. Il y avait plus de 150 000 personnes qui ont participé. J'espère que les chiffres vont encore monter et que les compteurs vont s'affoler. Il y a évidemment des choses à modifier sur les modalités de vote. Je pense, vote électronique, moi je suis assez ouverte sur le sujet. Le vote peut être sur le lieu de travail, horaire élargi, etc. Vote obligatoire, je suis plus réservée, mais j'ai hâte de voir ce que diront nos concitoyens sur le sujet. Vote à 16 ans, pareil, je suis assez réservée. Quand je me remémore le dialogue que j'ai pu avoir avec les jeunes, quand je vous disais on n'existe pas dans leur paysage, qu'on vote à 16 ans ou à 18 ans, je ne suis pas sûre que ce soit ça qui fera qu'on existera plus dans le paysage. Moi, je crois qu'il faut qu'on travaille sur une meilleure participation locale, plus de référendums, plus de consultations, plus d'imprégnation de la démocratie dès le plus jeune âge, à tous les étages, et qu'on retravaille sur qu'est-ce que la politique apporte. En fait, redonner du sens pour que les citoyens, quand ils vont voter, se disent ben voilà, ça sert à quelque chose. Tant qu'ils se diront de toute façon, ça sert à rien, on pourra développer tous les moyens de vote, ça ne changera rien. Je crois vraiment qu'il faut que les citoyens, et c'est notre rôle, mais c'est aussi le vôtre, retrouvent le sens du vote. Retrouver le sens du vote.
Pour les 6 mois à venir, avant l'élection, quelles sont les réformes que vous espérez avoir le temps de mettre en place ?
Je crois que à 6 mois de l'élection, il est difficile d'envisager de grandes réformes, qu'elles soient législatives ou simplement de mise en œuvre. En revanche, il est toujours temps déjà de terminer toutes les réformes qui sont en cours. On a des dizaines de propositions de loi qui sont en ce moment en navette, qui ne sont pas encore adoptées. On vient d'adopter hier une proposition de loi sur la maltraitance animale, et donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc finir, ne pas laisser en plan des choses. Je crois que rien ne serait pire que de dire on commence des choses et on ne les termine pas. Là encore, c'est détestable pour le lien de confiance entre les citoyens et les politiques. Donc aller au bout des choses, et là, pendant les mois qui viennent, il faut qu'on aille au bout de tous les chantiers que nous avons ouverts. Et puis, c'est le temps, à mon sens, de refaire justement ces débats citoyens pour voir quelles sont les attentes des gens sur justement cet aspect démocratique, comment renouer ce lien, quelles sont les propositions qu'on peut faire au-delà de ce que vous avez évoqué sur les modalités du vote, pour justement réenchanter un petit peu la politique et refaire une nation de citoyens engagés et qui souhaitent emmener la France quelque part.
Dernière question, là on est plus sur l'avenir. Comptez-vous continuer à vous investir dans la vie politique après le prochain mandat ou dans les prochaines années, Yael Braun-Pivet ?
Alors oui, comme beaucoup en fait, et j'ai attrapé le virus de la politique. C'est une aventure passionnante. On a parlé au début d'utilité, on se sent profondément utile. Et on est en connexion avec les gens. Et ça, moi, je trouve que c'est incroyable parce que on est vraiment, on investit tous les champs, en fait, de la vie des gens, notamment quand on est à la permanence parlementaire, de la petite enfance au grand âge. Et on voit qu'à chaque fois, tout est politique. Et donc, comme tout est politique, faire de la politique, pour moi, c'est vraiment la plus belle des missions que l'on peut remplir, le plus beau des mandats, parce que, voilà, un mandat, je le dis souvent en réunion publique, un mandat, on nous a confié un mandat, mais un mandat, c'est faire quelque chose pour quelqu'un. Ça n'est pas faire quelque chose pour soi. Et donc ça nous engage profondément. Et voilà, cet engagement, il m'habite. Et donc, pour le moment, je ne suis pas prête d'arrêter.
LFM 95.5.
Nous remercions Yael Braun-Pivet d'avoir répondu à toutes nos questions. Malheureusement, c'est déjà la fin de notre émission, mais ne vous en faites pas, on se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi à 11h pour un nouveau numéro d'État Civil. En attendant, vous restez bien à l'écoute sur le 95.5 FM. Pour tout savoir sur l'actualité du moment dans les Yvelines, pas de soucis, restez bien à l'écoute car vous allez retrouver Hakima Aya et la pause actu à midi et à 13h pour faire le plein d'infos locales. Pour la fin de l'après-midi, de 16h à 19h, vous pourrez retrouver l'émission Le Live présentée par Alice. Elle va vous accompagner et vous faire écouter les sons qui marchent le plus en ce moment. Et enfin, pour finir votre journée comme il se doit, de 20h à 22h, pour les vrais fans de notre rap français adoré Mallory et son émission du Rap au Mic, vous font découvrir les talents de demain, une émission 100% rap français, donc comme tous les mercredis. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente journée à l'écoute d'LFM.
C'était État et Civil.
C'était État et Civil
sur LFM.